Chapitre 47. Suite de ma tournée missionnaire, le poignard d'un assassin est levé sur moi à Québec. À 3h de l'après-midi, le premier dimanche de février 1859, la grande salle du village de Napierville était remplie des catholiques intelligents de l'endroit qui voulaient savoir pourquoi j'avais quitté l'église romaine. Loin de suivre le conseil de leur prêtre, qui leur avait conseillé de me faire une réception telle que je ne serais plus jamais tenté de revenir, ils firent preuve de toutes les marques de respect et d'attachement qu'il était en leur pouvoir de me manifester. Le matin suivant, la salle fut de nouveau bondée d'auditeurs qui voulaient savoir pourquoi un homme ne peut faire Dieu avec une sorte de pain à cacheter. Dans l'après-midi, le docteur du village fut envoyé par les prêtres pour discuter avec moi et défendre la confession auriculaire. Il essaya de nous montrer que Jésus-Christ avait institué le sacrement de pénitence, la confession auriculaire, comme le seul moyen d'obtenir le pardon de nos péchés. Mais il fut bientôt au bout de ses arguments et je le priai de nous dire depuis combien de temps il était allé confesser ses péchés au prêtre. Il fut forcé de répondre « 10 ans ». Chacun se mit à rire de tout cœur. Cette hilarité générale jeta une telle douche d'eau froide sur sa brûlante éloquence que le seul moyen qu'il sut trouver pour essayer de sauver sa cause fut de soudoyer une douzaine de fainéants irlandais qui m'interrompaient chaque fois que j'essayais de parler. Bien que l'immense majorité voulût en entendre davantage, il nous fallut terminer la réunion. J'eus la joie, à la réunion du soir, dans la maison de mon hôte, de recevoir de la part de 10 chefs de famille catholiques romains l'assurance qu'ils avaient aussi pris la résolution d'accepter l'Évangile pour leur seule règle de conduite et Jésus-Christ pour leur seul sauveur. Le jour suivant, mardi, j'eus la joie de rencontrer les fermiers de l'Acadie, hommes honnêtes et intelligents, dans leur village. Pendant plus d'une heure, ils écoutèrent la conférence que je leur donnais sur l'Évangile comme le seul fondement solide sur lequel un peuple doit s'appuyer pour devenir fort, heureux et libre. Un notaire, qui avait été envoyé par le curé pour m'interrompre, fut poliment conduit jusqu'au bout du village sur les épaules de 6 robustes fermiers qui le prièrent de rester là et de se tenir bien tranquille s'il ne voulait pas que quelque chose de pire lui arrivât. De l'Acadie, je retournai à Montréal pour y prendre le train pour Québec où l'on m'attendait le jour suivant. Dans la Gazette de Québec du 11 février 1859, on lisait ces lignes. Arrivée de M. Chiniki. Ce gentleman est arrivé à la Pointe-Lévis mercredi soir par le train. Un grand nombre d'habitants de cette localité et de notre ville se trouvaient à la gare pour lui souhaiter la bienvenue. Il a séjourné à l'hôtel Fraser et a traversé le fleuve de Lévis à Québec hier après-midi. Son domicile est actuellement rue de la Couronne à Saint-Roch. On nous assure que le nombre de personnes qui l'ont visité depuis son arrivée ne saurait être inférieur à 4000. Deux fois, pendant la journée d'hier, il fut obligé de faire un discours à cette multitude depuis la fenêtre. Le public accourut de toutes les localités environnantes et un grand nombre de personnes sont restées depuis lundi pour le voir. Quelques-uns, en apprenant son arrivée à la Pointe-Lévis, la nuit précédente, vinrent de Sainte-Anne-Château-Richer et de l'île d'Orléans. Pas une parole insultante n'a été prononcée, mais tous ont témoigné un extrême plaisir d'avoir encore une fois au milieu d'eux celui à qui il portait l'affection la plus sincère. M. Chiniki a parlé cet après-midi à un meeting dans la salle de conférence rue Sainte-Anne, mais l'heure trop avancée ne nous permet pas de donner des détails aujourd'hui. Nous pouvons dire cependant que la salle était comble, principalement de ses compatriotes, et que jusqu'au moment où nous avons été obligés de quitter, la plus grande tranquillité n'a cessé de régner et les remarques de l'orateur étaient fréquemment applaudies avec le plus grand enthousiasme. Ainsi que le dit la Gazette, ce discours du jeudi fut un glorieux succès pour l'Évangile ainsi que ceux du vendredi, du samedi et du dimanche. Je parlais à 2h de l'après-midi car je n'aimais pas donner mes conférences le soir. Les rues de Québec étaient trop éclairées pour empêcher la populace de causer du désordre. Comme la Gazette de Québec le dit encore, pendant les intervalles entre les conférences, la grande chambre que j'occupais était remplie d'amis et de gens qui me posaient des questions. Quant à la rue, en face de la maison, elle était tellement bondée par le nombre de bons amis qui voulaient entendre le message évangélique qu'il me fallait, 2 ou 3 fois par jour, leur prêcher en plein air depuis ma fenêtre. Naturellement, les prêtres étaient furieux. Vous auriez pu les voir courir dans les rues pour arrêter que nous soyons à notre poste à 7 heures. Les gens qui venaient de tous côtés pour me voir et m'entendre et leur demander « Où allez-vous ?» La réponse était invariablement « Nous allons écouter le père Chiniki. » Mais ne savez-vous pas que c'est un crime, un abominable péché d'aller l'entendre ? Ne savez-vous pas que vous êtes excommunié si vous parlez à cet abominable hérétique ? « Oui, on nous a dit cela, » répondait-il. « Mais ne nous avez-vous pas répété 100 fois que vous aviez le pouvoir de pardonner tous nos péchés ?»« Oui, oui, » répondaient les prêtres. « Notre Sauveur nous a dit, « Tous les péchés que vous pardonnerez sur la terre seront pardonnés dans le ciel. »« Très bien, » répliquaient les auditeurs. « Après avoir entendu M. Chiniki, si notre conscience est trop troublée, nous irons à confesse et vous nous pardonnerez ce nouveau péché avec le reste. » Et les prêtres devaient se contenter de leur réponse. Le second jour, quelques hommes qui faisaient partie du groupe des 500 qui m'avaient invité à venir me dirent que les prêtres avaient l'intention évidente d'essayer de me faire tuer pendant la nuit suivante par des vagabonds et ils s'offrirent de garder la maison. Je leur répondis d'agir comme il leur plairait dans cette affaire. Puisque c'était à leur invitation que j'étais venu à Québec, le devoir leur incombait de prévenir les émeutes qu'ils appréhendaient. Alors ils organisèrent une troupe de 15 jeunes gens, intrépides et bien armés, pour monter la garde auprès de ma résidence pendant les sombres heures de la nuit. La conférence du dimanche était « Notre salut par Christ ». Bien que les excommunications les plus terribles et les plus exécrables aient été lancées, au service du matin, contre tous ceux qui viendraient m'entendre ou oseraient me dire un seul mot, l'assemblée était si grande que nous fûmes obligés d'ouvrir les fenêtres de la grande salle afin que les personnes obligées de rester dehors, par suite du manque de place, puissent entendre. La joie qui remplissait mon cœur était telle que, bien que je fusse épuisé, je ne sentais pas la lassitude. La vue de ces multitudes qui étaient affamées du pain levis et à qui je pouvais donner ce pain vivifiant me causait une telle émotion que plusieurs fois je ne pus leur parler qu'avec les larmes de joie. Vers 10 heures du soir, deux amis vinrent me dire « Cher père Chiniki, l'on vous tuera sûrement cette nuit si vous ne quittez au plus tôt la ville. Nous venons maintenant d'assister à une réunion des plus affreux vagabonds de la ville à qui deux de nos prêtres ont adressé la parole. Ils ont tellement excité leur passion brutale que plus de 50 d'entre eux ont juré de mettre le feu à votre maison cette nuit et de vous tuer quand vous en sortirez. Veuillez donc quitter la ville. Nous avons un bon traîneau tout prêt pour vous conduire dans un endroit sûr à 8 ou 10 milles d'ici. » Je leur répondis « Je vous remercie de vos bontés, mais je ne puis suivre votre conseil. Quand j'ai quitté l'église de Rome, aussi bien que quand je suis venu à Québec, je savais d'avance tout ce que cela me coûterait. Je ne suis pas venu ici pour m'enfuir. Si c'est la volonté de Dieu que je verse mon sang cette nuit pour la cause de son évangile, j'aurai toute l'éternité pour le bénir de cette faveur. Alors, me dirent mes amis, vous ne pouvez nous empêcher de mettre double garde cette nuit pour vous protéger. Faites comme vous voudrez sur ce point, répondis-je. Et ils me laissèrent seul. Les quelques heures qui précèdent la mort dans de telles circonstances sont trop solennelles pour qu'on puisse dormir. Les rives de l'éternité sont si proches, elles paraissent si brillantes et si glorieuses qu'on ne peut s'empêcher de retenir son haleine en les contemplant. Vers 3 heures du matin, l'un de mes gardes de nuit vint à moi et me dit « Comme la nuit est fort avancée, et que les premières lueurs du jour ne sont pas loin, nous pensons que tout danger d'attaque est passé. Si vous n'avez pas d'objection, nous allons nous en aller prendre quelques heures de repos, car nous sommes tous des ouvriers et il nous faut nous reposer. Très bien, mes chers amis, allez vous reposer quelques heures et que le Seigneur vous bénisse pour vos bontés envers moi, » répondis-je. Et ils s'en allèrent. J'allais alors trouver les bons domestiques qui veillaient et les prier de me donner une tasse de café. Comme je n'avais pas fermé les yeux, je sentais le besoin de prendre quelque nourriture pour conserver mes forces. J'allais justement prendre cette tasse de café quand j'entendis un épouvantable bruit à la porte. On l'enfonçait évidemment et une multitude d'hommes se précipitaient dans les escaliers pour monter au salon. Les individus qui, au meeting dont il est parlé plus haut, avaient été préparés par les prêtres, avaient décidé de mettre le feu et de me tuer quand j'essaierais de m'échapper. Chacun d'eux était masqué. Trop lâche pour approcher de la maison, quand elle était gardée par mes 30 jeunes gens, ils s'étaient cachés dans une maison en construction à quelque distance, attendant le moment où mes gardes s'en iraient à la pointe du jour. Je leur demandais « Qu'est-ce que vous faites ici, à une telle heure de la nuit ?» Le chef, qui avait un long couteau de boucher à la main, répondit « Misérable apostat, nous venons mettre fin à ton infâme vie, si tu ne jures pas que tu ne prêcheras plus jamais ta maudite Bible. » et saisissant ma main droite de sa gauche, il me planta le couteau sur la poitrine. La moitié de ses compagnons, armés de bâtons et de poignards, firent un cercle autour de moi et répétèrent ce que leur chef avait dit. « Maudit apostat ! Si tu ne jures pas que tu ne prêcheras jamais plus ta maudite Bible, tu es un homme mort !» Pendant ce temps, le reste de la bande remplissait la chambre de terribles imprécations, brisait les chaises et menaçait de tuer le brave homme et sa femme qui avaient consenti à me loger pendant mon séjour à Québec. Je leur dis, laissez ces gens tranquilles. Si c'est un crime de prêcher l'évangile ici, je suis le seul coupable. Tuez-moi. Je ne crains point la mort, mais ne molestez pas ces braves gens. En ce moment, je sentis que l'on appuyait si fort le poignard contre ma poitrine que je croyais à tout moment qu'il allait me traverser de part en part. Élevant mes mains suppliantes vers le ciel, je dis, cher Sauveur, par amour pour moi, tu as versé ton sang sur la croix. Si c'est ta volonté que je verse le mien pour l'amour de ton nom, que ta volonté soit faite, je remets ma vie entre tes mains. À peine avais-je prononcé ces paroles que le meurtrier s'écria avec une horrible imprécation, infâme apostat, nous ne sommes pas venus ici pour écouter tes prières hérétiques. Nous sommes venus pour mettre fin à ton infâme vie. Si tu ne jures pas que tu ne prêcheras jamais ta Bible. Il pressa alors son couteau si fort que je sentis le sang couler sur ma poitrine. M'attendant à chaque instant à tomber mort, j'élevai de nouveau mes mains vers le ciel et dis « Mon Dieu, dans un moment, je serai en ta présence et je t'en bénis. Mais comme ils veulent un serment avant que je meure, ils l'auront. Je jure qu'aussi longtemps que ma langue pourra parler, je prêcherai ta sainte parole telle que je la trouve dans la Sainte Bible. » Et alors, ouvrant mes habits des deux mains, je présentai ma poitrine et leur dis « Maintenant, frappez le dernier coup. » Mais mon cher Sauveur était là pour me protéger. Le meurtrier commença à trembler de la tête aux pieds. Le couteau tomba de ses mains sur le plancher et d'une voix tremblante, il dit « Eh bien, Père Chiniki, si vous promettez de vous en aller, nous ne vous tuerons pas. » Il voulait évidemment me faire promettre de m'en aller de la ville. Mais je pensais qu'il n'y avait pas grand mal de le tromper tout en disant la vérité. Je répondis « Oui, je m'en irai. » Parole qui pouvait être prise dans plus d'un sens. Et il me laissa tranquille. Il était tombé plus de 2 pieds de neige dans la rue pendant la nuit et j'avais une assez longue distance à marcher pour atteindre la maison où je voulais aller. Je sentais mes forces physiques m'abandonner par suite des épreuves de cette nuit-là et je pensais qu'il était prudent, avant de partir, de prendre ma tasse de café qui était sur la table. En outre, je voulais gagner du temps dans l'espoir que quelques-uns de mes amis ou de mes gardes de nuit parviendraient à savoir ma position et viendraient à mon secours, car j'avais vu l'un des domestiques sortir en courant, probablement pour donner l'alarme. Je dis à ces coquins qui gardaient alors le silence, mais dont les yeux me surveillaient de près, « Il me faut marcher une assez longue distance dans la neige jusqu'aux genoux. Vous ne trouverez pas mauvais, je l'espère, que je prenne cette tasse de café avec une bouchée de pain. » Et je m'assis à la table. Mais je n'avais pas bu la moitié de ma tasse qu'une voix furieuse que je n'avais pas encore entendue cria. « Ne voyez-vous pas qu'il nous trompe ? Il prend trop de temps. Il a l'intention de rester ici. » Et en disant cela, la table est renversée, la tasse et les assiettes brisées, et avec un horrible blasphème, il mugit. « Infâme apostat ! Tu t'en iras immédiatement. Pas de retard, va-t'en, vite !» Et il me renversa presque d'un coup de poing. Je sentis qu'il me fallait partir. Après avoir mis mon pardessus et mon bonnet de fourrure, je pris mon sac et marchai vers la porte. Il faisait encore bien sombre et comme je l'ai déjà dit, il était tombé 2 pieds de neige dans les rues pendant la nuit. Je n'étais pas sans inquiétude pour savoir comment je pourrais faire la longue route qui était devant moi. Mais, par la bonne providence de Dieu, un charretier se trouvait justement à passer devant la porte avec son traîneau. Je lui demandai « Voulez-vous me conduire chez le maire par intérim, Monsieur Hall ?»« Oui, monsieur, me répondit-il. » Et je fus bientôt en sûreté sous le toit de ce noble protestant écossais. Car, par la miséricorde merveilleuse de Dieu, le maire Langevin, un catholique romain fanatique, fut absent pendant les quelques jours que je passais à Québec. Je montrai ma poitrine sanglante à M. Hall et lui dis « Monsieur, je viens de m'échapper des mains d'une bande de gredins catholiques romains qui ont juré de me tuer si je continue à prêcher à Québec. Comme j'ai promis hier de donner aujourd'hui ma dernière conférence sur la Bible et le droit que chaque homme a de la lire, je remplirai ma promesse quand cela me coûterait la vie. Je viens me placer sous la protection du drapeau britannique pour jouir de mes droits et de ma liberté. « Si vous pouvez, me dit M. Hall, prêtez serment à la couronne, je vous protégerai. Mais j'ai une faveur à vous demander. Ne parlez pas de la blessure que vous avez sur la poitrine, ni du sang que vous avez perdu. Vous ne sauriez croire le terrible effet que cette vue produit sur moi. Le sang appelle le sang. Si l'on savait que vous avez reçu cette blessure à Québec et que votre sang a coulé par la main des prêtres, cela pourrait avoir les plus terribles conséquences. Il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de calmer la rage de nos soldats protestants aussi bien que les autres protestants que je dois appeler pour vous protéger. Car il me faut placer la ville sous la loi martiale et rassembler toutes les forces à ma disposition si je veux sauver votre vie et peut-être la mienne aujourd'hui contre la puissance sanguinaire des suppôts de Rome. Une demi-heure plus tard, la ville de Québec était placée sous la loi martiale et plus de 1000 soldats anglais, baïonnettes au fusil, étaient autour de moi pour me protéger. C'est entre deux rangs de ces soldats de la liberté et du droit britannique que le maire me conduisit à midi dans son propre traîneau pour donner la dernière conférence sur la Bible que j'avais annoncée. Comme je me rendais à la salle entre deux rangs de baïonnettes étincelantes au soleil, il était tout à fait amusant pour moi de voir les prêtres catholiques, à moitié morts de peur, courir à travers la foule de leurs pauvres esclaves qui étaient massés tout le long des rues en disant « Ne faites aucune démonstration, ne faites aucun bruit, ne remuez pas un doigt contre le père Chiniki. La ville est en état de siège. Les soldats tireront sur vous et vous massacreront à la moindre apparence de trouble. Pour l'amour de Dieu, restez tranquille. » La grande salle ne pouvait contenir la moitié des gens qui voulaient entendre ce que j'avais à dire sur la Sainte Bible et le droit de tout homme de la posséder et de la lire. Plusieurs milliers de personnes qui n'avaient pu trouver une place dans la salle se tenaient au dehors et écoutaient avec une attention intense à travers les fenêtres ouvertes. Le jour était brillant et doux, comme un jour d'été. J'avais deux énormes caisses contenant 600 testaments que je distribuais jusqu'au dernier à mes chers compatriotes catholiques romains après l'assemblée.